Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop et Glon, votre magazine 100% OGC Nice. Ça y est, l'OGC Nice est en barrage Ligue 1, Ligue 2 contre Saint-Etienne. Le fiasco est quasi total, l'OGC Nice incapable de battre le FC Metz. Lanterne rouge, score final 0-0 entre les deux équipes. Dans les autres matchs de cette dernière journée de Ligue 1, Auxerre s'est imposé à Lille 2-0 et Le Havre est allé gagner à Lorient sur le même score au coup de sifflet final. Envahissement de terrain à l'Alliance Riviera est possible, huis clos en vue de la réception des Verts lors du barrage retour, décision qui sera statuée mercredi. Pour m'accompagner ce soir dans ce Cop et Glon très spécial, on voulait pas que ce scénario évidemment soit effectif, mais pour le coup il est là. Naninho est avec nous, titulaire indiscutable. Salut Nico.
Salut à tous. Je voulais m'habiller en noir, mais je pense que les funérailles sont reportées à une petite semaine, donc
le 29 normalement.
29 normalement, donc on va attendre.
Olivier Vignot est avec nous pour son premier Cop et Glon sur nos antennes de BFN Nice Côte d'Azur, ancien joueur du GIB entre 2006 et 2007, 21 matchs sous les couleurs de l'OGC Nice. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Ouf, on fait grise mine hein, forcément ce soir.
Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Les résultats de ce week-end sont pas faciles, mais bon, on va essayer de positiver et d'aller chercher... un peu de positif dans ces derniers résultats.
Positivons, est-ce qu'on a les ressources pour positiver? C'est aussi la question et on va y répondre certainement avec Guy ce soir, supporter et correspondant pour Nice Matin. Bonsoir.
Ouais, c'est vrai qu'on va avoir du mal à trouver du positif, c'est quasiment un flop et glon ce soir plutôt qu'un cop et glon.
Pas mal.
Plutôt que et l'avenir est très incertain.
En tout cas, on aime bien quand vous nous gratifiez de certains jeux de mots. On est toujours friands, mon cher Guillaume Sommaire de cette émission. La première partie, forcément, est consacrée au débrief de ce dernier match de saison régulière, comme on pourrait l'appeler dans ce cas, face au FC Metz 0-0. Je rappelle le score final. Et puis la deuxième partie, d'un côté, les top flops et le focus consacré à la finale de la Coupe de France qui se tiendra ce vendredi à 21h face au Racing Club de Lens, où OGC Nice qui joue sa saison sur une semaine, finalement, avec 3 matchs en 8 jours. Le barrage aller Ligue 1 Ligue 2 est programmé le mardi suivant à Geoffroy Guichard. 3 jours plus tard, le 29, le retour à l'Alliance Riviera. On se souvient que le Stade de Reims l'année dernière, dans la même position, n'avait pas fait tourner, ce qui n'avait pas empêché de perdre 3-0 face au PSG au bout des 45 premières minutes face donc au Paris Saint-Germain. Le GIM doit-il sacrifier cette finale pour sauver la peau du club en Ligue 1? Élément de réponse avec mes invités en plateau dans ce 36e épisode de la 5e saison de Cop et Glon. C'est parti. Nous, on va prendre la direction tout de suite de l'Alliance Riviera pour voir ce qui s'est passé entre Nice et Metz. Les images comptant pour la dernière journée de Ligue 1. Ali Abdi, côté droit, va décaler Sofiane Diop qui prend le temps d'ajuster son ballon. Sa frappe enroulée frôle le cadre de Fischer quasiment dans la foulée, mais dans l'autre surface, le centre de Sadi Boussané trouve le relais de Gvilitaya et Abouachvili met à contribution Yevan Diouf qui détourne en corner. Et puis en deuxième mi-temps, cette tentative, vous l'avez vu, de Mohamed Alicho, son pointu n'a pas plus de succès que les autres tentatives. Niçoise, match nul 0-0 contre la Lanterne Rouge Messine déjà relégué. On évoquera la piètre performance du GIM dans un instant. Avant, on voulait vous montrer aussi ce qui s'est passé au terme de la rencontre. Les images de cet envahissement de terrain venu d'une partie de la populaire sud. Vous les voyez, ces scènes de supporters descendre de la tribune pour invectiver les joueurs qui, eux, s'étaient empressés de quitter la pelouse. Seul Dante est resté pour ce qui devait être son dernier match à la Lanterne Riviera. Pour le reste, bombe agricole, fumigène, bras d'honneur, panneau publicitaire fracassé et toute la frustration déversée par une partie des supporters du GIM. Déjà, je voulais avoir prendre la température du plateau. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces images, Nico?
Une fracture totale. Je pense que toute la saison, il y a eu une succession d'événements. Et aujourd'hui, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. C'est des images évidemment tristes à voir. Mais moi, j'aimerais qu'on ne retienne pas que ça des supporters de l'OGC Nice. Toute la saison, ils ont été derrière, hormis cet incident à Lorient qui, au final, je pense, a été assez bénéfique parce que ça a permis de remettre de l'ordre aussi dans le club. Évidemment que c'est pas beau et qu'on veut pas voir ces choses-là, mais ils ont poussé de la première à la 90e minute, ils ont été irréprochables toute la saison. Donc voilà, je pense qu'ils sont excédés, ils sont surtout inquiets pour leur club parce qu'on parle d'une descente en Ligue 2, c'est une catastrophe absolue pour le club. Est-ce qu'Ineos va être capable de combler les pertes aussi liées à une descente? Est-ce que ça va pas être encore pire comme certains clubs? Moi je pense qu'avec ces images, les instances vont vouloir nous accabler aussi. Donc je pense que c'est des supporters qui sont juste à bout et qui n'en peuvent plus, quoi.
Ça peut être la dégringolade après aussi. Je voulais vous faire réagir aussi sur les propos qu'a tenu Jean-Pierre River chez nos confrères de Ligue 1 Plus. Le président du gym, avec ses déclarations, a fait beaucoup parler. Je comprends la déception, mais je suis déçu que nos supporters ne soutiennent pas nos joueurs jusqu'au bout. Ils peuvent les incriminer sur leur saison qui n'a pas été bonne, c'est un fait, mais il faut aller jusqu'au bout. On n'est pas encore en Ligue 2, comme je l'ai entendu dans les tribunes aujourd'hui. J'appelle à l'union sacrée, mais cette fin de match, c'est dommage. Vous inspire quoi, Guy, cette déclaration de président
River? C'est un peu lunaire comme déclaration, parce que les supporters ont toujours été là, ou du moins pas loin, même quand les résultats étaient catastrophiques. Et cette saison aurait été pourrie de bout en bout. Ça a commencé avec des blessés à foison. Ça a continué avec les changements d'entraîneurs, avec les épisodes Mofi, Boga et compagnie, les boules de pétanque de Francaise. Enfin, s'il y a de quoi faire un film sur cette saison, tellement elle est catastrophique.
Série Netflix, hein. Il y a eu Nice Night il n'y a pas longtemps, on pourrait faire une série sur la saison de l'OGC Nice. Olivier, quand on voit aussi les scènes d'insurrection à Nantes, évidemment, ça vous touche particulièrement. Vous avez joué 133 matchs du côté du FCN, capitaine aussi de cette formation nantaise. Match arrêté, perdu ensuite, enfin, vraisemblablement, ça va être le cas, perdu sur le tapis vert contre Toulouse. En tant que joueur, vous la comprenez, cette colère des supporters qui évidemment encaissent depuis le début de la saison, ou vous trouvez quand même que c'est excessif et qu'il y a des bornes à tout?
Je dirais que sur le fond, ils ont raison. Mais sur la forme, malheureusement, et comme vous venez de le dire, on va retenir quoi? On va retenir les mauvaises images de ce match, les envahissements de terrain.
Et surtout les conséquences.
Des ultras. Et derrière les conséquences, si le gym doit jouer son match de barrage
à huis clos,
bah forcément que ce sera un gros handicap pour une équipe qui va devoir lutter jusqu'au bout pour le maintien. Donc sur le fond, oui, sur la forme, malheureusement, je pense que c'est pas adéquat.
Ça crée quoi chez un joueur ce genre de scène? Est-ce qu'on se dit, voilà, maintenant j'ai pas le droit à l'erreur, parce que peut-être que ça pourrait être pire au moment d'une potentielle relégation? Qu'est-ce qu'on se dit quand on subit ces scènes-là?
Disons que quand on est joueur et qu'on voit forcément les séries de mauvais résultats s'allonger, on sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir une confrontation, soit à l'entraînement, soit en match. C'est des fois un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a quand même un encadrement de sécurité qui est plus important qu'aux entraînements. Je crois que les entraînements sont tous à huis clos maintenant. Donc forcément, quand on est joueur, à un moment donné, on ne doit pas arriver à ce point-là pour se bouger, pour se remobiliser, pour se recentrer sur les objectifs. Et malheureusement, cette année, les joueurs n'ont pas réussi à gagner ces points, à engranger ces points pour ne pas être dans cette situation aujourd'hui.
On va débriefer cette rencontre entre Nice et Metz. Je voulais choisir le qualificatif, messieurs: affligeant, catastrophique, honteux, consternant. Qu'est-ce que vous voulez, quel mot vous voulez utiliser sur ce Nice-Metz?
Logique par rapport au visage que tu montes depuis des mois et des mois. Et puis finalement, ta place, elle est en Ligue 2. Enfin, c'est factuel. Si tu n'es pas capable d'être dangereux face à la pire équipe de Ligue 1, c'est que ta place n'est pas en Ligue 1, tout simplement. Donc ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. On se demande ce qui est travaillé aux entraînements. Parce que dans un match comme ça, tu dois faire une entame où les mecs ils sont en vacances. Les mecs ils sont en vacances, tu dois aller leur mettre 2-3 coups d'entrée, les presser haut pour leur dire... nous on n'est pas en vacances, nous on joue notre survie. Et c'est parce qu'on a vu, mettre le pied sur le ballon tranquillement dès le début du match, des joueurs hésitants. Et pourtant sur les 20 premières secondes, on a vu deux gros pressings déclenchés, on s'est dit ah tiens. Et en fait sur la durée ça n'a pas tenu, parce que je pense que les mecs ne savent pas ce qu'ils doivent faire quand ils rentrent sur le terrain. Et ça crée encore plus de manque de confiance que ce qui est déjà le cas au début du match. Et c'est un cercle vicieux derrière.
Parfois on se disait d'ailleurs peut-être que Metz pouvait la grappiller, cette première victoire de la phase retour, s'ils avaient mieux négocié quelques situations en contre. On en était là, mon cher Guy.
Ouais, mais on se demande comment Metz est à la dernière place de cette Ligue 1, parce que je trouve que certaines phases de jeu étaient agréables à voir. Et Nice, ils ont souvent été dominés sur ce match-là. Mais le problème aussi qu'il y a, c'est que les joueurs l'an prochain vont quasiment tous partir. Donc ils se foutent de ce que va devenir le club. Ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ce qu'ils cherchent, c'est un nouveau contrat pour continuer à assurer leur vie professionnelle. Le club, c'est pas terrible. Nous, par contre, on va garder le club, et on va peut-être le garder et le perdre en même temps dans les méandres de la...
Vous trouvez qu'il joue avec l'institution du gym?
Oui, elle n'existe pas pour l'institution du gym. Je ne pense pas qu'ils en aient la conscience. D'ailleurs, il n'y a aucun niçois dans cette équipe, il n'y a aucun leader de cœur, à part Dante, qu'on a quasiment adopté, parce que c'est un personnage hors norme. Et même si moi, je lui en veux un peu, parce qu'il ne s'est jamais exprimé sérieusement sur la situation, il n'y a que 2-3 matchs où on le voit parler, mais sinon, il est resté absolument silencieux toute la saison, quasiment. On ne l'a jamais entendu donner de la voix. Il n'y a que lui qui a peu près attaché aux valeurs du club.
Et Claude Puel, d'ailleurs, en conférence de presse d'après-match, vous le citiez, mon cher Guy, a reconnu d'ailleurs la faiblesse de ses joueurs. C'était une des premières fois de la saison, on l'écoute.
Si je reviens un petit peu sur le match, je nous ai trouvé en première mi-temps très fébrile. Faut tenir. Et je suis confiant maintenant. Bien qualité pour ouvrir et la victoire. Maintenant, comme je dis, elle n'aurait pas suffi.
Deuxième mi-temps un petit peu meilleur, elle n'a pas été non plus très glorieuse, Olivier.
Non, mais je pense que quand il parle de fébrilité, c'est exactement ça. C'est que, comme je disais tout à l'heure, quand vous n'arrivez pas à engranger des points, quand vous n'arrivez pas à réenclencher une dynamique de résultats, bah forcément, à un moment donné, les joueurs doutent, les joueurs perdent la confiance et font preuve de fébrilité. Et sur ce match comme hier, malheureusement, les joueurs ont fait preuve de fébrilité. Si je dois faire le comparatif avec Auxerre, qui va quand même gagner à Lille, qui joue une place européenne, ben on va dire que Auxerre a su gérer peut-être au niveau des émotions, se peut-être aussi plus habitué à jouer ce genre de rencontre que certains joueurs du gym, malheureusement.
On va vous montrer la composition d'équipe alignée par Claude Puel en 3-4-3 hier avec les retours d'Eli Wally, Charles Van Hoot et Dante. C'est Nico qui va nous la commenter et nous l'expliquer. Et nous faire savoir pourquoi cette saison, c'est aussi la faillite d'un entraîneur et de ses idées.
Parce qu'il n'y a aucune continuité dans les choix, parce qu'il n'y a aucune logique dans ses choix en cours de match. Je trouve que les lectures de match de Claude Puel depuis quelques temps sont totalement à l'envers. Pourquoi faire sortir Kyle Boudache à la mi-temps, par exemple, alors que c'est l'un des seuls remuants devant. Sofiane Diop est en grande difficulté. Après, c'est la première fois depuis très longtemps que je trouve que la compo de départ, elle est plutôt intéressante. Avec trois joueurs offensifs, avec des latéraux qui ont pour habitude en tout cas de se projeter. Donc je me suis dit, tiens, là on va vraiment adopter une stratégie offensive, mais ça n'a pas suffi parce que derrière, le système c'est bien beau, mais il faut l'animer. Et dans l'animation, on est défaillant parce qu'on n'a pas de solution. J'ai l'impression qu'on est condamné à attendre en bloc bas et à espérer des transitions rapides, sinon on est incapable de produire quoi que ce soit.
Louis Sinis qui finit donc 16e à 2 points d'Auxerre et à 3 unités du Havre. On va vous montrer avec le classement de cette Ligue 1. Vous le voyez, Nice qui termine avec 32 points. On le disait depuis le début de la saison, Olivier, ces équipes Auxerre, Le Havre, elles sont habituées, elles sont programmées à jouer le maintien et elles nous l'ont prouvé encore hier soir.
Oui, tout à fait. C'est des matchs importants où, pour le coup, les joueurs jouent leur survie. On parlait tout à l'heure des institutions, mais pour moi, les joueurs jouent aussi leur survie parce que dans un CV, quand tu as une descente, surtout dans un club comme le gym, forcément, ça marque. Et c'est pas facile de retrouver des clubs derrière. Donc, peu importe le nom, à un moment donné, quand tu es club et que tu cherches des nouvelles recrues, forcément dans le CV, il y a quand même une descente et pour moi, ça fait un peu tâche.
La saison, on l'a bien compris, elle tourne au fiasco, elle tourne au vinaigre. Quand on voit le niveau affiché hier, Guy, je pense qu'on se l'est tous dit autour de la table, on s'est dit, on y va tout droit en Ligue 2.
Oui, les plus pessimistes avant ce match déjà disaient, c'est perdu. Je pense notamment à Nico, qui était inquiet.
Visionnaire, peut-être.
Plutôt ça. Moi, j'étais optimiste. Je ne voyais pas comment Auxerre pouvait gagner à Lille et comment Le Havre pouvait gagner à Lorient et comment Nice pouvait surtout, ne pas battre Metz. Pour moi, c'était un scénario
invraisemblable
et ça s'est produit. Donc, ils sont capables de tout. Alors, est-ce qu'ils seront encore capables de tout pour nous étonner sur les trois derniers matchs qui restent? C'est le seul vœu qu'on puisse faire.
Mais on n'en est pas vraiment sûr, Guy, pour rien vous cacher. Olivier, on va se projeter avec vous sur ce match de Saint-Etienne. Jouer à Geoffroy Guichard à guichet fermé, ça vous est arrivé plusieurs fois dans votre carrière de joueur. C'est comment de jouer en tant qu'adversaire du côté de Saint-Etienne?
Pour moi, Saint-Etienne, c'est une des plus belles ambiances que j'ai connu en tant que joueur. C'est vrai qu'on parle souvent du Vélodrome, on parle de Lens, mais c'est vrai que Saint-Etienne, ça reste une ambiance fantastique, une institution du football, et forcément le match aller barrage va être très très compliqué. Il va y avoir une ambiance de fou. Les joueurs vont devoir jouer décomplexé, devoir sortir et je suis désolé, mais quand t'es joueur,
sans Eli Wahi qui sera suspendu.
Ouais, en plus. Sublimer, je vois pas ce qui peut aller en faveur des joueurs.
Les Verts de Philippe Montagnier qui ont en plus 10 jours pour préparer ce rendez-vous, puisqu'ils n'ont pas la finale de Coupe de France qu'aura à jouer le Gym face au Racing Club de Lens. Cette finale, on en parle dans la deuxième partie de Cop Aiglon. C'est bien avec tout. De retour sur le bateau de Cop Aiglon pour analyser, pour revenir sur ce match entre Nice et Metz, 0-0, score final. Place maintenant à une rubrique qui a très mal vieilli, les top flops. Comment ces top flops avec Nico et pas top aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup donné cette saison.
Danté.
Et là maintenant on veut arrêter de...
Sincèrement, on aurait pu mettre Danté qui pour le coup, déjà c'est le seul qui est resté à la fin du match. Quand il y a eu l'envahissement, c'est le seul qui est resté. Et puis ça a été le meilleur sur le terrain, il a fait 2-3 tacles salvateurs, il a failli marquer. Et ça en dit long quoi, c'est un mec de 42 ans qui a tout gagné dans sa carrière, qui est là à pleurer la descente d'un club, et les autres s'en fichent. Enfin s'en fichent, c'est un gros mot, mais ils sont pas aussi concernés que lui. Et en flop, j'aurais pu mettre toute l'équipe à côté de lui. Mais j'ai choisi quand même Morgan Sanson, qui est vice-capitaine et qui depuis des mois, mais c'est
l'ombre de lui-même.
Mais c'est même plus l'ombre de lui-même là, c'est que moi il me fait peine sur le terrain. À chaque duel il est par terre, il est toujours à l'envers, il ralentit le jeu, il fait des touches de balles inutiles. C'est lui qui doit sortir à la mi-temps, c'est pas Charles Van Hout, qui est pas bien meilleur techniquement, mais qui au moins dans le coffre est capable de couvrir plus d'espace. Et je crois que j'avais mis aussi Sofiane Diop, qui symbolise parfaitement ce qu'est Ineos. C'est-à-dire
de l'irrégularité.
Alors il a couru, c'est vrai, bon, ça se voyait qu'il avait envie de bien faire, mais il n'y arrive pas. Il a beaucoup de déchets, et là où lui devrait être le leader technique, ce joueur comme peut-être Sinayoko à Auxerre, capable de tirer tout le monde vers le haut avec du caractère, de la personnalité, ben, il ne l'est pas du tout.
Vous pensez qu'il a le boulard ou qu'il est limité en fait, Sofiane Diop?
Je pense pas que ce soit une question de grosse tête, je pense déjà le contexte autour du club évidemment n'aide pas, qui plus est un joueur avec cette dimension technique, c'est pas évident pour lui de s'exprimer, mais il nous a forcé à être exigeant envers lui-même parce qu'il se permet aussi certains comportements parfois où on se dit ok, si tu te comportes comme ça par contre tu dois être irréprochable, et il l'est pas, et il est pas suffisamment décisif, et il aurait dû lui être un joueur capable de sortir Nice de cette zone de relégation, et il l'a pas fait. Donc évidemment que de par tous ces éléments, ben, c'est sur lui qu'on va taper en premier. Parce que c'est le joueur le plus cher de cette équipe, c'est celui qui touche le plus gros salaire, et c'est celui qui en réclame le plus. Donc c'est lui qui est le plus exposé, et même si parfois les critiques sont un petit peu abusives, je trouve qu'elles sont globalement justifiées.
Guy, Kyle Boudache en top, ça va faire plaisir à Nico, forcément.
Mais je voulais faire plaisir à Nico, en fait.
Ouais. Il faut lui faire plaisir à Nico en ce moment, tous les supporters du gym.
Mais non, Kyle Boudache, parce qu'il a été le seul à montrer un petit peu d'envie, un petit peu de... a créé le danger sur son côté droit là-bas. Il a créé en début de match quelques situations. Bon, après, ça s'est vite éteint, malheureusement. Donc, j'ai parlé de top furtif. Parce que ça n'a pas duré assez longtemps pour être...
Vous le comprenez, ce changement à la pause de Claude Puel, dont parlait Nico, ce remplacement de Kyle Boudache?
Non, parce que jamais Ali Chou devrait rentrer. Il n'a pas suffisamment donné jusqu'à présent pour pouvoir remplacer un petit jeune qui est plein de, en qui on a de grands espoirs. Chaud, c'est, je l'ai dit hier, c'est une Tesla avec 30 km d'autonomie. Pas hier, lundi dernier. Malheureusement, c'est un rêve, chaud.
Morgan Sanson en flop ce soir, oui.
Ouais, parce qu'en fonction de ce qu'il a montré par le passé, en fonction de ses capacités, il est très très en dessous et il nous en donne pas pour notre argent, quoi.
Olivier, quelqu'un peut-être à mettre à l'honneur, je sais que je vous mets un petit peu en difficulté, mais ou pas forcément, peut-être une individualité à ressortir très vite fait.
Non, je pense que sur la performance collective, ça peut être un peu compliqué de sortir un top ou un flop. Y a une équipe qui doute depuis des semaines et des semaines, qui n'arrive pas encore une fois à engranger des points. Aujourd'hui, ils sont au pied du mur. C'est où ça passe, où ça casse. Alors, vous êtes quand même très pessimiste. J'ai toujours moins envie d'y croire parce que on parlait de, tout à l'heure de joueurs. Vous avez cité Sofiane Diop, par exemple, ou Shaw. On avait aussi évoqué Wahi. Je ne peux pas imaginer ces joueurs insensibles à ce genre de match. C'est des matchs qui vont être importants, dans lesquels on va avoir besoin de alors, ce ne sont pas des top joueurs, mais des joueurs, en tout cas des cadres. Je sais que Dante sera là. J'ai du mal à croire que Sanson ait perdu tout son football, alors que c'est un top joueur.
Quel est le problème, alors?
On parlait de Klaus, on parlait d'Abdi. Pour moi, il y a, sur le papier, les joueurs, ils y sont. Il y a le potentiel.
C'est ça qui
il manque un truc, et c'est ça qui est incompréhensible.
On va parler des prochaines échéances de l'OGC Nice, avec notamment la finale de Coupe de France, mais pas que. C'est tout de suite dans le focus. Il nous reste 5-6 minutes à passer avec vous dans le temps additionnel de cette émission.
Et oui, focus
consacré à la finale de la Coupe de France, majoritairement, qui se tiendra vendredi à 21h face au Racing Club de Lens, au OGC Nice, qui joue sa saison sur une semaine avec 3 matchs en 8 jours. D'abord la finale de Coupe de France, puis le barrage Ligue 1, Ligue 2, programmé le mardi 26 à Geoffroy Guichard. 3 jours plus tard, le retour à l'Allianz Riviera vendredi 29. Messieurs, on voit d'ailleurs le calendrier à l'écran. Messieurs, la question est assez simple ce soir. Est-ce que le GIM doit sacrifier cette finale pour sauver la peau du club en Ligue 1? On se souvient que le Stade de Reims avait aligné son 11 de départ face au Paris Saint-Germain. Il s'était pris 3-0 et puis après il s'était descendu en Ligue 2. Sacrifice ou pas, Nico? Oui, non, après on en discute.
Non.
Guy?
Non.
Olive?
Non, on sacrifie pas une finale.
Non.
Ça, c'est un nom. C'est un nom vraiment. Voilà.
Une finale, ça se joue pas, ça se gagne.
Absolument, on n'y croit pas du tout le fait qu'il faille vraiment que penser à la Ligue 1, Olivier.
Non, parce que peu importe le scénario de la finale, en sacrifiant la finale et en perdant une finale, on ne mettrait pas les joueurs dans les meilleures conditions pour les matchs derrière. Et inversement. Mettre, on va dire, un 11 type qui pourrait jouer les matchs de barrage derrière, c'est pas pour autant, si Nice gagne, qu'ils seront chargés à bloc de confiance pour les matchs de barrage. Donc, je suis pas pour sacrifier la finale, loin de là. Les supporters vont se déplacer en nombre et il va falloir représenter le GIM au Stade de France, dans tous les cas.
Nico?
Non, parce que déjà, oui, c'est une finale, on n'y est pas chaque année. On en a perdu il n'y a pas si longtemps contre Nantes, donc on doit se rattraper par rapport à ça. Et puis parce que c'est le meilleur moyen d'aborder ce barrage avec un peu plus de confiance, parce qu'on en a besoin, c'est une victoire en finale. Ou du moins, s'il n'y a pas une victoire au bout, c'est un match complet. Où tu peux te rassurer dans les têtes et te dire, on est capable de proposer quelque chose. Parce qu'il faut s'attendre à la guerre, à Geoffroy Guichard. Et je pense que si tu bazardes cette finale, ne serait-ce dans le message envoyé, tu vas rendre tout le groupe encore plus fébrile.
Guy?
Ouais, Olivier disait tout à l'heure qu'une descente dans un CV de joueur professionnel, ça faisait tâche. Par contre, une finale remportée, c'est une belle ligne au palmarès.
Bien sûr.
Et je pense que ça va peut-être les faire sortir.
Galvaniser le groupe.
Il faut l'espérer, parce que c'est quand même une cerise. Bon, sur un gâteau qui était un peu pourri cette année, je vous l'accorde. Mais je pense que pour un joueur professionnel, se dire j'ai gagné une Coupe de France, quand ils parleront à leurs petits-enfants, il y aura une date à donner. Donc espérons dans cette chose-là. Et moi d'ailleurs, oui, je serai à Paris, et je vais peut-être même rester à Paris et pour pouvoir descendre plus facilement à Saint-Étienne.
Voilà. Vous serez du voyage à Saint-Étienne, Guy?
Non, je pense pas.
Ah, peut-être pas quand même. Non, je vous posais la question, messieurs, tout simplement, parce que Jean-Pierre Hivert a parlé en conférence de presse et il a dit, président de l'OGC Nice, que finalement, la finale n'était plus une priorité comparée au maintien du club en Ligue 1. On l'écoute.
C'est jamais accessoire de jouer une finale de Coupe de France, mais la priorité, on le sait, n'est plus là. J'aurais aimé, ce soir, avoir le maintien et jouer une belle finale de Coupe de France. Ça reste une finale, on va la jouer bien évidemment, mais le plus important ce sera des deux matchs qui suivent. Donc, c'est pas pour autant qu'on va laisser passer cette finale.
Je vous ai vu.
J'avais pas vu cette déclaration.
Très colère sur
mais ton propre président te dit que, bah, à la limite, la finale, tu la joues pas à fond. Parce que c'est ce qu'il dit dans le discours en réalité, mais c'est lunaire. Entre ça et le discours sur les supporters, mais il est complètement à côté de la plaque. Et pour partir encore plus loin, moi je me demande s'il est revenu pour les bonnes raisons, Jean-Pierre Hivert, parce que son retour c'est un fiasco à tous les niveaux.
Vous l'interprétez comme ça, Olivier, cette déclaration de Jean-Pierre Hivert où il dit que c'est plus une priorité, c'est une déclaration qui n'a pas lieu d'être selon
vous ? Non, mais on sait tous que à choisir, si on devait choisir entre l'un et l'autre, forcément qu'un maintien est plus important pour le club. On parlait tout à l'heure de la situation financière du club. Forcément, quand on est en Ligue 1, c'est toujours mieux que de gagner une finale. Mais c'est vrai, après un mauvais résultat à la maison qui t'envoie au barrage et ensuite à une semaine d'une finale de Coupe de France, ça peut être des propos mal interprétés par certains supporters, ça peut se comprendre.
J'ai vu beaucoup de supporters qui revendaient leur place pour la finale sur les réseaux, notamment au Stade de France, où vous y serez à Saint-Denis vendredi, Guy. Vous avez déboursé 350 euros, c'est ça, pour assister à cette finale.
Un peu plus même.
D'ailleurs, avec le résultat d'hier, est-ce que là aussi, le cœur n'y est plus ou parce que vous m'avez confié juste avant l'émission que... on pouvait avoir le remboursement, ce serait pas trop mal.
J'avoue que j'ai eu un moment de doute hier soir. Et puis, je monte pas uniquement pour le match, c'est la raison principale. Mais à côté de ça, je serai avec mon fils qui a préparé quelques festivités. Donc, je pense que ce sera un voyage sympa quand même. Mais c'est vrai qu'à choisir et n'y aller que pour l'objectif de supporter ces Niçois, qui ne le méritent pas vraiment, c'est pas la bonne... Bonne chose.
Nico.
Je pense qu'il faut y aller pour nous aussi en tant que supporters, parce qu'on a bien vu qu'on n'était pas les bienvenus. Et pour embêter tout le monde, leur dire, on est venu, on est là, on va faire notre maximum. Et si on a le bonheur de gâcher la fête, parce que la France du foot est contre l'OGC Nice, il faut se le mettre en tête. Je pense qu'aussi, il faut y aller pour sauver notre honneur. Et c'est ce qui va être fait par les supporters. On ne le fait pas pour les joueurs, on ne le fait pas pour l'entraîneur, on ne le fait pas pour les dirigeants,
pour
on le fait pour l'entité OGC Nice qui a été trop souvent salie cette saison.
Olivier, la finale PSG Reims en 2025, vous la considérez un petit peu comme ce Lens-Nice, il y a vraiment un tel écart de niveau qu'il y avait l'année dernière?
Je ne mettrais pas Lens au niveau du PSG, mais disons que sur la saison...
Mais Reims au niveau de Nice, par contre.
Ils étaient en barrage.
Oui.
Ils étaient aussi en barrage.
Ouais, avec le même gardien.
L'écart était plus... Ouais. L'écart était plus important l'année dernière que cette année. Mais disons que... oui, aujourd'hui, on a forcément une équipe de Lens qui a surfé sur une dynamique, qui a fait une saison incroyable, des joueurs qui ont des statistiques comme jamais... un public dont on parle souvent. Donc forcément, il y a deux poids, deux mesures sur cette finale avec le gym qui arrive dans une situation beaucoup plus compliquée, comme on en a déjà parlé.
Pourtant, ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci beaucoup de m'avoir accompagné ce soir dans Gop & Glon. Je vous rappelle le jeu concours organisé par les antennes de BFM Nice Côte d'Azur. Vous pouvez gagner vos places pour la finale au Stade de France. Vous n'avez qu'à envoyer Nice par SMS au 7-24-24. Et on vous le dit aussi en avant-première, en exclusivité, il y aura une édition spéciale à partir de 20h30, vendredi, sur nos antennes avec un duplex au Stade de France et aussi place Masséna, débrief mi-temps, débrief après match. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de Gop & Glon. D'ici là, passez une très belle semaine. Ciao, ciao.